Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Faut-il réguler le secteur du prêche au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Ousmane Diarra, il est membre du Haut Conseil islamique du Mali, et Ali Tunkara, il est sociologue et spécialiste des faits religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, présentée par Ibrahim Aran Diallo.
Le Grand Dialogue.
Alors, Monsieur Tunkara, pour mieux camper le décor de cette émission, je rappelle que vous êtes spécialiste quand même des faits religieux. Alors, quand on parle de prêche, on fait référence justement à quoi?
Alors, concrètement, dans le contexte malien, lorsqu'on parle de prêche, les ministres de culte sont évoqués, notamment les imams, les prêtres, d'autres confessions aussi, qu'on pourrait citer ça et là, mais dans le contexte malien, sont fondamentalement les musulmans qu'on fait allégeance. C'est là aussi, ça s'explique par le fait que, du point de vue numérique, la communauté musulmane reste la communauté dominante au Mali. Donc, de ce fait, à chaque
fois que. Certaines études évoquent que 95% fait, quand même de Maliens qui seraient des musulmans.
Exactement. Donc, à chaque fois que le recours est fait aux faits religieux, l'islam se trouverait sur toutes les lèvres. Cela s'expliquera aussi, comme je le disais à l'entame de mon propos, par ce numérique-là qui expliquerait le pourquoi les musulmans, effectivement, seraient les plus concernés par les faits religieux maliens. Mais je pense que, s'agissant du prêche, quand même, dans le contexte malien, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On sait pertinemment, quand même, que le christianisme, en passant par l'islam, même ce qu'on pourrait qualifier de croyances populaires ou de nos religions traditionnelles, des hommes et des femmes ont toujours été en charge de propager le message du vivre ensemble, le message du divin pour les musulmans et les chrétiens. Donc je pense que ce n'est rien de nouveau, le prêche en tant que tel, dans le quotidien des Maliens et des Maliennes, même si des mutations ont vu le jour des années 90 à aujourd'hui, lesquelles mutations aussi sont corollaires à la démocratisation des institutions. On sait pertinemment qu'avec la chute du président Moussa Traoré, beaucoup d'associations d'obédience religieuse, même politique, hein, ont vu les jours. Laquelle émergence, effectivement, d'associations, notamment confessionnelles, expliquait pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle du prêche, beaucoup se cacheraient sous des étiquettes qui ne sont pas forcément religieuses ou en tout cas pas confessionnelles.
Alors, Monsieur Diarra, hein, je rappelle que vous êtes membre du Haut Conseil islamique du Mali, en même temps imam, justement, de la mosquée de la Faste. Alors, le prêche fait référence à quoi, selon vous?
Ok, merci beaucoup, merci à tous nos auditeurs. Quand on parle de prêche, c'est un moyen de transmettre les messages aux fidèles. Un moyen de transmettre les messages aux fidèles pour les sensibiliser ou les transmettre certains nombres de valeurs que la religion recommande. Comme Dr Tunkara a dit, nous sommes à un pays à majorité musulmane. Quand on parle de prêche, on parle des valeurs islamiques ou des valeurs religieuses que le prêcheur ou l'imam veut transmettre aux fidèles, soit les sensibiliser sur certains nombre de choses ou les amener à attirer leur attention sur certains phénomènes ou les amener à avoir un certain nombre de convictions. Donc, c'est un moyen religieux qui est recommandé pour un musulman. Chaque musulman étant l'ambassadeur de l'islam, il est appelé à transmettre le message de l'islam selon à la mesure de ses connaissances ou à la limite de ses connaissances. Mais quand on parle de prêche dans ces formes, dans cette nouvelle forme, il s'agit d'une connaissance qui est transmise par des spécialistes ou des gens qui sont habilités et qui ont certains niveaux de connaissances, certains niveaux de maîtrise, n'est-ce pas, et qui sont habilités à pouvoir transmettre, et c'est ça qu'on parle de prêche.
Alors, M. Tunkara, on est d'accord que le prêche fait référence à la transmission justement
C'est des messages hein, de Dieu aux fidèles. Alors, avant de parler des mutations, vous avez parlé des mutations, comment se porte aujourd'hui le secteur du prêche hein, au Mali ici?
Alors, incontestablement, pour ne pas aller avec le dos de la cuillère, le secteur du prêche dans le contexte malien, il est quand même caractérisé par la non-réglementation incontestablement, que ce soit chez les musulmans comme chez les chrétiens, hein, quand vous écoutez les deux confessions. Vous allez vous rendre compte quand même que beaucoup se sont autoproclamés prêcheurs, imams ou prêtres, sans avoir justement le bagage nécessaire pédagogique, voire théologique à la matière. M. Diarra a mis l'accent sur la dimension connaissance qui est fondamentale en islam. Il est extrêmement important qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien. Effectivement, le fait de véhiculer les bonnes paroles de Dieu fait partie des messages, d'un devoir divin. C'est comme ça que le musulman perçoit justement les prêches. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui dans le contexte malien, des hommes et des femmes majoritairement qui seraient concernés par ces prêches, naturellement, la question de la connaissance, elle a été léguée au second plan. Quand vous écoutez les différentes radios confessionnelles majoritairement, vous regardez les différentes télé confessionnelles, vous allez vous rendre compte quand même que beaucoup d'acteurs se sont fait étiqueter imams, prêcheurs, sans pour autant avoir quand même les bagages nécessaires. Vous lisez toute la tradition.
Parlant des bagages nécessaires, vous voulez faire référence à la formation, non pas la formation requise justement pour être prêcheur.
Clairement. Clairement, quand vous regardez, que ce soit dans les pays voisins, le Maroc, l'Algérie, sans aller loin, même l'Arabie Saoudite et d'autres pays majoritairement musulmans, vous allez vous rendre compte quand même que partout, le prêche est réglementé. Non pas parce qu'on veut stopper la propagande du message religieux, mais plutôt, je pense qu'une telle réglementation va même dans l'intérêt du message divin. Comment allez-vous comprendre aujourd'hui une certaine catégorie de prêcheurs s'accaparerait des lieux publics ou en tout cas exploiterait un nombre important de gens au nom du référentiel musulman. Comment allez-vous, au nom même de l'orthodoxie musulmane, accepter qu'une ultra-minorité, effectivement, continue...
Mais excusez-moi, est-ce que les fidèles aussi n'ont pas une certaine responsabilité par rapport à cela? Alors qu'on va écouter tout le monde, n'importe qui, voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas une certaine responsabilité?
Je pense que quand vous regardez un peu... un des versets premiers de l'islam quand même inciterait tout croyant, homme et femme, d'aller vers la quête du savoir. Effectivement, à ce niveau, beaucoup de fidèles n'ont pas accompli ces devoirs religieux. Mais qu'à cela ne tienne, même si on est quand même outillé du point de vue religieux, il n'est pas prêcheur qu'il le veut. Et quand vous allez dans les pays majoritairement musulmans, ce sont quand même des facultés, ce sont des écoles de haut niveau hein, qui ont été créées, lesquelles écoles, facultés, permettent effectivement le passage de différents prêcheurs. Le prêche n'est pas que la récitation du message divin, il y a toute une dimension psychologique, pédagogique qui sont enseignées. C'est pour vous dire que prêcher est loin d'être une expression libre en réalité. Il y a toute une gamme de connaissances à la fois religieuses, sociologiques, psychologiques qui sont enseignées à ces différents apprentis dans les différentes écoles théologiques musulmanes notamment. Donc je pense que dans le contexte malien, malheureusement, beaucoup de prêcheurs n'obéissent pas à une telle exigence théologique. Mais il y en a quand même, il ne faut pas succomber au charme de raccourci.
On va vous revenir. Donc, M. Diarra, vous qui êtes quand même sur le terrain, et alors M. Tunkara vient de mettre l'accent sur un point, le manque de régulation, d'encadrement, justement, de ce secteur. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous constatez ça, justement?
Quand on parle de prêche au Mali, c'est un tel domaine qui a été, le Mali étant un pays qui a connu l'islam depuis les temps, le premier siècle de l'islam. Il y a eu des grandes écoles juridiques, des grands savants. Et la science était, la connaissance et les prêches étaient régularisées d'une manière à une autre. Ce n'était pas n'importe qui avait droit à la parole. Et c'était des écoles qui attestaient ou qui donnaient une reconnaissance morale ou une reconnaissance juridique ou de caution à quelqu'un pour dire que voilà, il mérite de parler au nom de la religion.
Parce que ce travail a eu lieu au Mali dans
le passé. Et même Des cérémonies étaient organisées à la fin de la formation pour attester ceux qui sont habilités à parler au nom de la religion.
Alors pourquoi aujourd'hui et ce travail-là n'existe
oui,
plus?
Oui, j'arrive. Ceux-là, et certains que... même, même la façon de porter leur turban et la façon de mettre leur chapeau, et quand tu n'as pas atteint certains niveaux, tu n'étais pas habilité à porter certains nombres de turbans et tu n'es pas permis de les attacher à certaines manières, compte tenu des niveaux de connaissances. Donc, il y avait une régularisation qui était là. Mais avec la colonisation qui est venue, qui avait une mission, dont la plupart des érudits se sont opposés à la colonisation et qui a voulu favoriser certains connaisseurs ou certains érudits qui étaient acquis à leur cause, et c'est ça qui a chamboulé, un peu dire, n'est-ce pas, le champ de la prêche qui a fait naître d'autres types de, qui se disent entre guillemets érudits ou qui transmettaient des messages favorables aux colonisateurs. Et après leur départ, la première réplique, on a essayé peut-être avec cette notion de la laïcité qui est venue, on a essayé peut-être de gérer cette question de la religion et en les mettant en second plan. Et les réalités nous ont attrapés. Nous sommes dans un pays à majorité musulmane et la nature des gens, c'est des gens qui sont liés à la religion. Donc, les gens ont besoin des messages de l'islam. Et c'est manque de régularisation ou manque
d'encadrement.
D'encadrement et qui a conduit à la naissance beaucoup, avec l'avènement de la démocratie, comme nos frères Dr Tungara a évoqué, cette liberté qui a été mal comprise par les gens, et chacun se donnait la liberté de pouvoir parler au nom de la religion. Et ça, c'est si on prend le domaine de la prêche, et quand on prend n'importe quel domaine au Mali, le domaine de la télé, du journalisme, vous connaissez mieux que moi ce qui se passe, tout le monde se mêle dedans. Et dans le domaine aussi professionnel, des gens qui sont en minorité où le nombre n'est pas assez élevé, la maîtrise des gens qui interviennent sans qu'ils soient qualifiés dans ces domaines n'est pas facilement maîtrisable.
D'accord.
Donc, on peut dire aujourd'hui, on s'est trouvé face à cette situation où chacun parle, chacun dit ce qu'il veut, et sans que ces dits soient conformes au message dont D'accord. il prétend transmettre.
Ok, merci beaucoup, M. Diarra. Alors, M. Tunkara, M. Diarra a mis l'accent sur un fait historique, hein, notamment la colonisation. Alors, aujourd'hui, en tout cas, les colonisateurs ne sont plus là. Et qu'est-ce qui empêche la société politique malienne, justement, à mettre un système d'encadrement dans ce domaine-là? La colonisation, c'est depuis quand même 1800, hein, ils ne sont plus là, il y a des siècles.
Je pense qu'il a bien fait de faire allusion au régime du président Modibo Keïta. On sait pertinemment qu'il y a deux textes majeurs dans le contexte malien qui réglementent les prêches. Le premier texte date de 1959, avec l'administration coloniale. Le dernier texte, il date de 1961, avec le président Modibo Keïta. Et c'est vrai, quand vous regardez fondamentalement ces deux textes, d'emblée, ils s'accordent sur le fait que la liberté de conscience est un acquis dans le contexte malien, ça c'est extrêmement important. Mais dans le même temps, les textes mettent un accent particulier sur l'attitude que doit adopter l'État central vis-à-vis du fait religieux. Le fait que l'État n'a pas à s'immiscer dans les questions de culte, mais attention, même les lieux de culte, les finances, sources de financement, les acteurs en charge de la transmission du message, effectivement, tout ceci est défini dans les textes en question. Mais sauf que il semblerait clairement que du président Modibo Keïta aujourd'hui, ces deux textes n'auront pas été appliqués en toute objectivité par le simple fait que quand vous regardez les différents lieux de prêches qui sont installés ça et là, notamment dans nos centres urbains, lesquels lieux n'ont pas requis au préalable une autorisation. Or, dans les deux textes, effectivement, on ne peut pas s'élever du jour au lendemain, s'autoproclamer prêcheur, aller occuper un espace sans pour autant avoir au préalable une autorisation. De la même manière également, on n'a pas à aller prêcher au nom de l'islam ou du christianisme sans pour autant que l'État sache qui sommes-nous. Ça, c'est extrêmement important. La nature de l'acteur en charge de ces prêches, elle est fondamentale. Si vous regardez aujourd'hui dans le contexte malien, nous faisons l'objet d'une sorte de porosité idéologique. Voilà, toutes sortes de pensées religieuses, toutes sortes de toutes formes de croyances débarquent chez nous avec aisance par le simple fait que l'État central il est vraiment quasi absent. Il est important que les gens comprennent une chose. Vouloir réglementer les prêches, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit Dalai Lama ou des religions traditionnelles, là, n'a aucunement l'intention justement d'empêcher une quelconque forme de religiosité de se manifester. Ça, c'est extrêmement important. Mais dans le même temps, il faut pas voir une telle réglementation du prêche comme si elle serait l'œuvre de l'Occident. C'est aussi un peu toutes ces formes de suspicion.
Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec cette responsabilité occidentale qui a été soulignée quand même par M. Diarra. Hein.
L'aspect fondamental, en fait, il a évoqué la responsabilité du pouvoir colonial. C'est fondamental. Même aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre de leaders religieux qui se sont inféodés au régime. Ça a toujours existé, c'est un peu la quintessence de sa pensée. C'est pour vous dire que, quelle que soit la période à laquelle nous faisons allusion, on a quand même des leaders religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres confessions, qui se sont inféodés au régime pour des privilèges. Hein. Même aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas en face de l'administration coloniale, mais on a quand même un certain nombre de leaders religieux.
Et ce ne serait pas un mimétisme né de ce rapport avec le pouvoir colonial, justement.
Je pense que quand on lit quand même l'ordonnance de 1959, elle est aussi quand même claire, parce qu'elle n'a pas forcément inféodé le religieux au pouvoir, mais sauf que ce sont des questions liées aux privilèges, des questions liées aux avantages qui pousseraient un certain nombre de leaders à se rapprocher davantage du régime en place, malheureusement. Donc c'est un fait qui est antérieur justement à l'état moderne du Mali. C'est cela que je crois que M. Diarra voudrait mettre en évidence. Mais ce qui est important fondamentalement à retenir, les deux textes dans le contexte malien, même s'ils font l'objet à pas mal de défaillances, à pas mal d'insuffisances, mais jusqu'ici, ils n'ont pas été appliqués, malheureusement. Donc ce qui fait que on a quand même des prêcheurs, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école théologique pour comprendre que le prêche est extrêmement sensible du point de vue pédagogique, du point de vue même psychologique. Pour finir ici, prenez juste un passage de l'islam qu'on vous dit, adressez-vous aux gens en fonction de leur capacité de compréhension. Donc il faut clairement tenir compte du contexte et de la circonstance. Ça, c'était un message qui était très sacré pour le prophète de l'islam.
D'accord. Alors, M. Diarra, vous êtes tous d'accord qu'effectivement, il y a un problème de régulation, d'encadrement de ce secteur-là. Est-ce qu'au regard de cette situation, on peut dire aujourd'hui que au Mali, que le prêche est sorti de son contexte? Au regard de ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'il est sorti de son contexte?
On ne peut pas dire totalement que c'est sorti de son contexte. Je dis tout simplement qu'on a besoin d'un problème, on a besoin d'encadrer, on a besoin de pouvoir moraliser certains messages que nous attendons aujourd'hui. Et nous avons besoin vraiment d'avoir ce dialogue et cette pédagogie de pouvoir changer les choses. Je dis bien, dans ces pays, réellement, le grand problème, comme il a dit, par rapport aux lois de 1959 et 61, qu'est-ce qui a manqué? C'est la pédagogie. C'est la pédagogie qui a manqué. Et étant, on élabore des lois dans les bureaux pour des gens à qui on doit s'appliquer ces lois et qui ne sont pas au courant des contenus de ces lois. Ils ignorent totalement le contenu de ces lois. Et ces lois ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, le contexte dans laquelle les gens sont en train d'évoluer. Donc, ils font que c'est des lois qui sont en défaillance par rapport aux réalités du terrain. C'est pour cela que ça n'a pas été appliqué. Et c'est difficile de pouvoir appliquer. Aujourd'hui, on entend parler de ces débats qu'il faut régulariser, mais il faut avoir la pédagogie. Tout d'abord, il faut avoir la volonté politique. Est-ce qu'en réalité, ceux qui le disent, ils ont réellement la volonté d'aller vers la régulation? Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir la volonté, on sait, c'est la politique qui doit donner l'orientation. Et cette politique a peur de quoi? A peur de la masse. Et cette politique a peur de l'électorat. Et pour les régulariser, il faut réellement avoir l'audace. Et cela pose de sérieux problèmes. Donc c'est pour cela que j'ai dit la volonté politique. Et quand on prend au Mali, avec l'événement du ministère chargé des affaires religieux. Et quand tu prends des initiatives sans associer les acteurs à la matière, on peut dire que c'est des projets qui sont
D'accord.
Morné. Okay. Et c'est ça qu'on assiste.
On va revenir effectivement au rôle et à la, aux différentes responsabilités justement de l'État par rapport à ce sujet. Alors, M. Tungora, on sait qu'au niveau, en tout cas au Mali, notamment même au niveau de beaucoup de pays en Afrique, au sud du Sahara, on sait que les prêcheurs appartiennent généralement à des différentes tendances islamiques. Est-ce que cet aspect ne contribue pas à amener beaucoup de problèmes dans le secteur?
En fait, quand on étudie les tendances telles qu'elles sont nées en elles-mêmes, ne constituent pas de problème en soi. Je veux dire, quelqu'un qui se réclamerait de la Kadiria authentique ou de la Tijaniya authentique, ou de ce que nous qualifierons au Mali du wahhabisme authentique, et fondamentalement, ces tendances dans leur authenticité sont loin d'être la source fondamentale du problème. Mais je pense que dans le contexte malien...
C'est-à-dire que ces différentes tendances-là se retrouvent autour de l'essentiel.
Depuis le lendemain de l'islam, quand même, il ne faut pas l'occulter. Des voix discordantes se sont fait entendre. Lesquelles voix ont pu quand même cohabiter en dépit des différences théologiques ou des différences doctrinales observables ça et là. Parce que qu'on soit soufi, qu'on soit tijanite, qu'on soit ce qu'on qualifierait au Mali sunnite ou wahhabite ou chiite, les fondamentaux sont quand même partageables par l'ensemble de ces tendances. Mm-hmm. Mais maintenant, dans le contexte malien, il ne faut pas qu'on se les cache. Beaucoup d'acteurs se cacheraient au nom d'une tendance pour spolier les gens, se cacheraient au nom d'une tendance pour racketter les gens. Comment allez-vous comprendre qu'au nom de la tijaniya, qu'au nom de l'approche salafi ou sunnite, qu'un religieux réunisse des fidèles au nom du référentiel musulman et les demander de l'argent? Vous comprendrez aisément qu'aucune tendance ne dit cela. Comment allez-vous comprendre qu'au nom d'une tendance quelconque, qu'un religieux cherche à se rapprocher du pouvoir? Je pense qu'il faut qu'on dise la vérité également aux fidèles pour dire qu'attention, en dépit de la pluralité des tendances, si les tendances sont clairement dans leur philosophie initiale, aucunement ces tendances ne peuvent constituer l'objet de discorde dans le contexte malien.
Mais est-ce qu'elle constitue l'objet de discorde aujourd'hui dans le contexte malien?
Oui,
est-ce qu'elle amène des problèmes entre, notamment sur la, en termes de cohésion sociale, justement entre...
Malheureusement, même les politiques aussi sont invités dans la danse, malheureusement. Parce que une des particularités du fait religieux, il ne faut pas chercher à l'inféoder aux politiques. Ça, c'est extrêmement grave.
Et ça, c'est une réalité, si je vous comprends bien.
Je pense qu'il est extrêmement important qu'on comprenne avant tout, on est comme une somme de citoyens, que je sois sunnite, musulman, chrétien, catholique, je peux faire la politique comme bon me semble. Mais attention, je n'ai pas appelé au nom de ma confession ou au nom de ma foi ou au nom de toute une communauté, comme le monde musulman est une communauté, parce que je veux juste être proche du régime et dire des bêtises au nom de la Oumma ou de la communauté. Je pense que c'est ce que nous assistons un peu du président Amadou Mantouria aujourd'hui. Les différents chefs d'État qui sont succédés ou qui sont toujours aux commandes, les différents politiques maliens ont profité de cette pluralité des tendances, de même renforcer davantage ce clivage entre les tendances, malheureusement. Il y en a qui vont chercher à se rapprocher davantage de ce qu'on pourrait qualifier de chiites ou de tijanites, d'autres chercheront davantage à se rapprocher de ce qu'on pourrait qualifier de wahhabites. Donc vous voyez à combien les politiques elles-mêmes ont instrumentalisé le fait.
D'accord, merci Tungora. Alors, monsieur Diarra, est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle, l'idée d'Ali Tungora, que la multiplicité justement de ces tendances religieuses-là constitue aujourd'hui un problème sérieux et met à mal la cohésion sociale dans le contexte malien?
Je dis par rapport à la multiplicité, comme il a dit, ça fait partie de la richesse de l'islam et la divergence d'opinion, mais l'unité dans le cœur et dans l'action. Le musulman, quelle qu'en soit la divergence d'opinion, c'est une question
marginale,
ce n'est pas sur l'essence même.
Donc ça ne constitue pas des problèmes sérieux au Mali. Hein.
Le plus grand problème, je dis, c'est ceux qui se sont mêlés dans ces domaines, qui se sont infiltrés dans le domaine du religieux avec des objectifs autres que la religion. Et aujourd'hui, par exemple, quand ils écoutent les radios, tu n'attends que de gens pour vendre leurs produits. Ouais. Ils passent par la religion, par des messages religieux, et enfin de vendre leurs produits. Ouais. Et un message religieux n'a rien à voir avec ce qu'on attend. Donc, et tous ces gens, on les met dans le dos de quoi ? On les met sur le sac en disant que c'est des religieux.
Alors, est-ce que la multiplicité de ces tendances-là constitue un problème aujourd'hui au Mali ?
Quand tu dis tendance, le tendance sur le plan religieux est connu. Mais je dis pas, ce n'est pas des tendances, c'est des opportunistes. Ouais. Et ces opportunistes qui se sont infiltrés dans le secteur ou dans ce domaine religieux.
Parce que si on dit tendance, on veut faire référence, on sait qu'il y a des Tidjaniyas, on sait qu'il y a le wahhabisme,
et
voilà.
Et ça, ça n'a pas été un problème. En réalité, ça n'a pas été un problème.
Ce n'est pas source de rivalité entre les
gens,
les prêcheurs.
Cohabité. Parce qu'au Mali, ici, la majorité des Maliens se retrouvent dans l'école malikite. Ouais. Et que tu sois, s'il y a les sectes, il y a les grandes écoles. Et quand on prend les Tidjanis, les autres, les Kadrites, ils se trouvent tous dans l'école malikite. Et l'école malikite est connue.
Donc, Monsieur Diarra minimise quand même le problème. Hein, minimise le problème des difficultés par rapport à la
multiplicité des tendances. Non, je ne minimise pas le problème, ça existe. Mais le source de ce problème n'est pas lié aux tendances religieuses. Mais c'est lié plutôt aux éléments externes qui essayent de rentrer dans le champ religieux en voulant atteindre leurs objectifs personnels.
Alors vous qui êtes du Haut Conseil islamique, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cette situation puisse être réglée? Si vous estimez qu'il y a des infiltrations justement dans votre domaine, qu'est-ce que le Haut Conseil est en train de faire pour corriger justement
cette situation? Donc, comme je dis, ces débats, je ne suis pas venu pour représenter le Haut Conseil islamique dans ces débats, mais c'est pour apporter une contribution en tant que musulman, en tant que leader musulman, par rapport à ces débats. Maintenant, le Haut Conseil islamique a mis dans ses activités, dans son programme d'activité, la question de la régulation de prêches figure dans le programme d'activité du nouveau bureau du Haut Conseil islamique. Mais ce problème, il faut la résoudre avec pédagogie, avec beaucoup de sagesse. Il faut impliquer les acteurs. Ça va ? L'État seul ne peut pas décider. Ce n'est pas les textes qui peut régulariser les prêches, comme certains pensent. Ce n'est pas en adoptant des textes ou des lois qui peut les régulariser. Mais il s'agit d'impliquer les musulmans eux-mêmes, d'impliquer les imams, d'impliquer les érudits. Il y a deux manières de le faire aujourd'hui. Si on régularise sur la base académique, il faut atteindre certains niveaux académiques pour être déclaré apte à pouvoir prêcher.
D'accord.
Ça, c'est plus le plan académique, on peut aller sur cette base. Et ceux qui n'ont pas fait des études académiques, et nous sommes dans un pays à majorité malikite, dans le rite malikite, pour que quelqu'un soit apte à pouvoir parler de la religion, il y a un certain nombre de livres qu'il faut étudier, qu'il faut assimiler, et qui est connu par les érudits sur le plan de fiqh, sur le plan de loi, sur le plan de usul al-fiqh. Il y a un certain nombre de livres qu'il faut maîtriser.
D'accord.
Et aujourd'hui, on peut régulariser cette question de la prêche en ayant ces démarches, mais il faut impliquer les acteurs eux-mêmes, il faut les associer et c'est avec eux qu'on peut trouver une solution pour pouvoir résoudre ces problèmes.
D'accord. Donc, M. Diarra estime que la multiplicité des tendances n'est pas effectivement un problème en soi, mais il y aurait quand même des infiltrations qui nous mèneraient à ces situations-là, ou à ces différentes situations-là. Est-ce que vous partagez cette idée?
Je pense que M. Diarra est parti aux sources même de l'islam, en réalité. Vous voyez qu'il fait allusion à des grandes écoles qui sont connues de toute la monde musulmane, qu'on soit chiite, qu'on soit tijanite, qu'on soit wahhabite ou d'autres sectes ou confessions, tendances. Mais fondamentalement, je le disais effectivement que aux origines de cette tendance, il n'y a pas de problème. Heureusement. Mais sauf que l'usage qu'on fait de cette tendance aujourd'hui qui constituerait la source même de nos problèmes dans le contexte malien. Je vous ai dit, dans aucune démarche chez les malikites, accepterait qu'on laisse quelqu'un de ses droits au nom du malikisme, qu'on se réclame soufi. Dans aucune école soufi, on demanderait justement de racketter un pauvre, qu'on se réclame de l'école d'Abdel Wahhab, wahhabite, dans aucune de ces idéologies, ou en tout cas de toute la pensée d'Abdel Wahhab, nullement il est marqué qu'un musulman doit vivre au crochet des autres. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, quand vous faites la somme arithmétique de ces différentes tendances, vous allez vous rendre compte quand même que il y a des fondamentaux qui sont le Coran et la tradition prophétique. On sait pertinemment qu'en islam, déjà, pour faire court, ce qui demande à tout musulman et musulmane, c'est de travailler, et pas que le travail, mais plutôt le travail bien fait. À l'itikane. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'attention, dans le contexte malien, un imam qui ne travaille pas, il y a un problème. Un imam qui fait appel à des pauvres, il les rackette, ça c'est pas du malikisme, mon gars. Mmh. Un imam qui appelle les gens à voter tant parce qu'il a reçu tant de francs au retour, ça c'est rien de schisme en fait. Je pense que dans le contexte malien, avons-nous affaire, je m'excuse du terme, à des entrepreneurs religieux. Voilà, les gens ont profité du fait religieux pour en donner un habillage tout à fait économique. Malheureusement, au nom de cet habillage économique-là, ils s'efforcent justement à nous mettre dos à dos au nom des tendances. Or, quand on creuse à fond, il y a d'autres référentiels, il y a d'autres motivations qui sont loin de la religion.
D'accord, je voudrais vous demander, au regard des récents, c'est vrai que les récents propos tenus par un leader religieux, Bandjougou Doumbia, n'ont pas été tenus quand même dans un contexte de prêche. Mais est-ce qu'on peut établir un lien entre justement ces propos et son titre de prêcheur?
Je pense que de nature, même si on fréquente une école théologique, les gens ont quand même des singularités en termes du point de vue comportemental. Moi, je peux fréquenter une école théologique, M. Diarra aussi fréquente une autre, mais du point de vue de singularité, on a des particularités. Mais je pense que fondamentalement, pour tout prêcheur, notamment en islam, on sait que la question de la sagesse est fondamentale lorsqu'on veut prêcher. Quand vous lisez les différents passages du Coran qui font allusion aux prêches, ils mettent tous, sans exception, un accent particulier sur le mot al-hikma, de venir aux gens avec sagesse. Malheureusement, lorsqu'on s'intéresse au discours tenu par M. Bandjougou Doumbia, naturellement, ces discours seraient en déphasage avec l'esprit authentique du message religieux. Mais n'oublions pas quand même que je pense que le contexte il est important pour son cas précis. Il était un peu ce que moi je qualifierais dans l'escalade émotionnelle. Voilà, il y avait du foncier, on se retrouve à une connexion ou un maillage avec le fait religieux. Mais fondamentalement, ça questionne toujours le fait qu'un nombre important de leaders musulmans maliens qui prêcheraient au nom de l'islam ont un sérieux problème en termes d'outillage pédagogique, en termes d'outillage théologique. Prêcher est un métier extrêmement sensible parce que on peut avoir d'ailleurs toute intelligence théologique, mais sans pour autant être identifié ou en tout cas autorisé à prêcher. Mais je pense que dans le contexte malien, Diarra l'a dit, même si on n'a pas fréquenté une faculté théologique, quand vous suivez toute la tradition de l'école coranique au Mali, les différentes étapes font d'un individu, un prêcheur ou pas. Ça,
d'accord. D'accord. Alors, on va écouter l'avis de M. Diarra par rapport à ses propos de Bandjougou Doumbia. Est-ce qu'on peut établir un lien entre ses propos et son titre de prêcheur?
Bon, je ne sais pas, comme il a dit, je n'ai pas toutes les informations relatives dans le contexte où ça a été dit. Je pense que c'était dans un cadre de problèmes immobiliers, fonciers, qui a mené le débat. Je sais exactement le contexte, je ne sais pas, est-ce que c'était une séance de prêche où le propos a été tenu? Je me dis que, d'après ce que je dis peut-être comprendre, ce n'était pas une séance de prêche. À mon avis, si c'était une séance de prêche, comme il a dit, l'islam nous demande de prêcher avec sagesse et la bonne exhortation. Et il y a aussi, étant un musulman, quand on dérape, il y a des mécanismes aussi, des régulations qui existe au niveau de leaders religieux, au niveau de musulmans. Si tel est le cas, après investigation, ils verront vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Mais en tant que musulmans, ce que l'islam nous recommande, comme notre frère a dit, Dieu nous dit, « Udu ila sabili rabbika bil hikma wal ma'izatil hasana ». appelle vers la voix de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation.
Mais sauf que les fidèles ne sont pas aussi outillés que ça pour faire cette distinction entre le prêche et et les autres questions qui ne rentrent pas forcément dans le cadre du prêche. On voit le prêcheur, on voit les propos venant du prêcheur, donc on est des fois facilement influencé par les propos.
C'est ça le sens de la responsabilité qui pèse beaucoup sur nous. Étant irresponsable, cela veut dire quand tu parles avec beaucoup de casquettes et les gens, chacun a sa façon de voir, d'analyser le propos de la personne en tenant compte de l'angle où tu vas le voir. Est-ce que c'est un simple citoyen? Est-ce qu'ici il parle en tant qu'un individu pour défendre ses propres intérêts qui sont menacés, ou il est en train de parler ici au nom de la religion pour défendre des valeurs religieuses? Donc je pense qu'il y a toutes ces nuances qui est là, et que dans notre pays, en réalité, avec le musulman, le niveau de culture des gens, qui fait que tout est mélangé et chacun essaye d'exploiter la population à sa guise, en tenant compte de ses niveaux de faiblesse ou de niveau des gens sur le plan, à faire la différence entre les choses.
Alors, M. Tunkara, si cette situation reste comme ça, quels peuvent être justement les risques? On est d'accord que le secteur n'est pas assez régulé. Quels peuvent être les risques aujourd'hui par rapport à cette situation?
Il y a plusieurs possibilités de risques, lesquels risques peuvent même être fallacieux, parce que quand vous voulez rendre service à votre religion, si la démarche empruntée n'est pas appropriée naturellement, c'est l'effet inverse. Ça, il faut qu'on fasse attention à cela. Quand vous faites un peu le recours aux différentes trajectoires d'un certain nombre de groupes radicaux violents, notamment les têtes des différentes katibas, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces groupes radicaux violents également ont basculé à un moment donné dans ces propos violents au nom du référentiel musulman. Or, quand on creuse à fond, on va se rendre compte que cette porosité idéologique, il y a une faiblesse quand même vis-à-vis de l'idéologie. Et c'est là qu'il est important que l'État central joue pleinement son rôle. On ne peut pas comprendre que qu'on soit...
Est-ce que les pères ont une responsabilité? On sait que l'État, il y a un problème de régulation, mais est-ce que les pères ont une responsabilité?
Monsieur Giralali, déjà, quand vous lisez les différentes activités qui sont planifiées par le Haut Conseil islamique, notamment le nouveau bureau en place, il est prévu dans ces activités, un chapeau a été mis sur la régulation du prêche. Je pense que à cela, il est de la responsabilité de l'État central de venir vers ces acteurs quand même qui sont légitimes. Ils ont beau été critiqués ça et là, ils restent quand même les acteurs les mieux indiqués, le plus légitimes pour porter le message. Vous ne pouvez pas confier une telle mission à un colonel ou à un général, ça ne va rien changer. Ou en tout cas à un avocat brillant, c'est pas son rôle. Il est extrêmement important qu'on comprenne qu'au-delà des dérives auxquelles nous assistons dans le contexte malien, qu'il y a quand même des acteurs, on ne peut pas les mettre sur la touche. Ils sont les mieux écoutés, ils sont les plus utiles. Pour revenir à cette question du fait religieux et même la commission d'un certain nombre de violences, il est extrêmement important qu'on comprenne que même dans nos lieux de culte, dans nos établissements notamment confessionnels, le même travail de régulation doit être également accompli. Vous prenez aujourd'hui les différents lieux ou les différents établissements confessionnels, qu'ils soient chrétiens, il ne faut pas l'oublier, qu'ils soient musulmans, on va se rendre compte quand même que les différents contenus des enseignements donnés aux jeunes gens ne sont pas forcément contrôlés par l'État central, même pas contrôlés par ces ministres des cultes qui sont les imams, qui sont justement les prêtres. À ce niveau également, il me paraît quand même fondamental aujourd'hui que l'État institutionnalise un certain nombre de secteurs, notamment le Haut Conseil islamique, une autre structure catholique ou protestante, lesquelles structures vont avoir en charge effectivement de veiller à ce que les différents contenus des enseignements dans les établissements confessionnels ne fassent pas l'apologie de l'action violente, ne fassent pas justement l'apologie même de la haine.
D'accord, monsieur, on vient de l'apprendre, qu'effectivement le nouveau bureau du Haut Conseil islamique, effectivement, a un projet de régulation du secteur. Alors, selon vous, quels doivent être les critères justement mis en avant pour déterminer la qualité du prêcheur, selon vous?
Bon, je pense que ça demande une étude, ça demande une consultation large au niveau des spécialistes à la matière, mais il faut l'accompagnement de l'État. Et l'État doit réellement accompagner le Haut Conseil et pour réellement mettre en place de véritables commissions de travail qui vont travailler sur cette question pour analyser et élaborer des critères qui seront acceptés par les érudits, les imams eux-mêmes, et pour que ça soit mis en application. Donc, aujourd'hui, il sera très difficile de dire, voilà, tel ou tel critère.
Mais est-ce que le travail avance un peu au niveau du Haut Conseil?
Bon, ça, c'est le travail n'avance pas beaucoup parce que ce qui doit venir en appui, qui est le ministère chargé des affaires religieuses, moi, je me dis, voilà.
Je rappelle que nous avons tenté d'inviter quand même le ministère du culte et des affaires religieuses, mais nos tentatives sont restées vaines quand même. Hein.
Parce que je me pose cette question, quel est leur rôle qui est là? Le ministère, je n'ai jamais vu l'INU, le ministère prend l'initiative pour démarcher le Haut Conseil, dire voilà, on veut mettre en place un cadre de collaboration pour résoudre les problèmes qui se posent par rapport au prêche ou par rapport à l'islam au Mali. Vraiment, il faut avoir la volonté politique et il faut aussi mettre sur ces sujets des acteurs réellement qui sont aptes à faire ce travail et qui sont le Haut Conseil, les imams qui sont là. Et je pense qu'avec cette concertation ou avec ce travail-là, si on est d'accord, on veut chercher une solution à ces problèmes, et on peut la trouver. Mais ça demande du temps. Alors, c'est même les secteurs qui sont mieux organisés. Et jusqu'à nos jours, on connaît des problèmes de régulation.
D'accord, ça doit prendre du temps.
C'est beaucoup plus vaste et ça demande du temps pour pouvoir régulariser.
D'accord, M. Tunkra, je rappelais tantôt que nous avons quand même invité le ministère du culte et des affaires religieuses, mais malheureusement, ils n'ont pas souhaité être là. Alors, au regard de ce que nous venons d'entendre de M. Diarra, ça veut dire que ce département ministériel ne joue pas pleinement son rôle dans le processus de régulation du secteur.
Je pense que la question de la démarche pourrait être une des difficultés qu'expliquerait le pourquoi diriger d'avant-projet qui avait été conçu par ce département il y a quelques semaines de cela, il faut quand même le rappeler ici.
Qui a été rejeté par les prêcheurs.
Un nombre de prêcheurs à travers de différentes vidéos émises ça et là sur les réseaux sociaux. On a compris quand même que le dit projet en question contenait des éléments qui peuvent même être très utiles pour ces leaders religieux, même s'il y avait des choses qu'on pouvait revoir. Mais je pense que peut-être qu'il n'est pas tard que le département de tutelle ou des tutelles reviennent sur sa démarche empruntée afin d'associer pleinement ces leaders religieux, effectivement, non seulement dans la conception du projet, mais dans le même temps, comment même aussi le conduire. Parce que je pense qu'un des reproches adressés à ce département des cultes et des affaires religieuses consisterait à ne pas forcément associer. Mais je pense que la phase aussi de l'avant-projet n'est pas en soi une phase aboutie. Ce n'est qu'une intention manifestée pour dire que nous voulons réglementer le secteur. Donnez-nous votre point de vue. Je pense que ça, ils n'ont pas été forcément compris.
D'accord, on va faire réagir, on va laisser réagir M. Diarra par rapport à ce que vous venez de dire, que le ministère aussi avait proposé un projet.
Hein, un avant-projet
qui a été rejeté justement par le prêcheur. Oui, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans
ce qui n'a pas marché, c'est la pédagogie qui a marché, qui a manqué. Et s'il n'y a pas eu cette pédagogie d'associer, on ne peut pas décider quelque chose au nom des gens. Et le ministère de culte est là pour s'occuper des affaires religieuses, des musulmans et des chrétiens en majorité, où c'est ces deux confessions où on parle beaucoup. Mais tu ne peux pas décider sur une loi, même si c'est un avant-projet, il fallait les associer.
Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce département par rapport à la régulation du secteur?
En 30 secondes. Aille vers le Haut Conseil, qui est la structure fêtière, qui représente l'ensemble des associations musulmanes, pour poser les véritables problèmes et discuter avec eux enfin de trouver une porte de sortie.
Merci beaucoup. C'est donc ces mots qui mettent fin à cette émission qui portait justement sur la nécessité ou pas de réguler le secteur de prêche au Mali. Nous étions avec Ali Tunkara, il est sociologue et spécialiste des faits religieux, et Ousmane Diarra, il est membre du Haut Conseil islamique du Mali. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keita, à la mise en onde Salim Djouara, à la coordination Mohamedou Touré et à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.